bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique, à votre avis. Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. La Chine, premier partenaire du continent africain, a organisé un grand forum sur la coopération avec l'Afrique. Une cinquantaine de dirigeants se sont rendus à Pékin dans l'espoir de décrocher des contrats avec le géant asiatique qui étend son influence dans le monde. Le président chinois Xi Jinping a promis plus de 50 milliards de dollars. Et donc, nous savons que Pékin va fournir aussi 641 millions de dollars en subventions dans le domaine militaire. Pékin a également promis de créer 1 million d'emplois sur le continent africain. Alors que pensez-vous de la coopération Chine-Afrique? Les accords commerciaux entre l'Afrique et les grandes puissances sont-ils bénéfiques aux pays en développement? Comment garantir des marchés avantageux pour l'Afrique et sa population en traitant avec les grandes puissances? Des questions que nous nous poserons entre autres. Nous avons comme invité le professeur Gabriel Zomoyebe, qui est professeur de sciences économiques. Il est à l'université de Libreville. Il est consultant d'organismes financiers internationaux et il est ancien président de la commission économique du dialogue national inclusif au Gabon. Je ne sais pas si nous l'avons déjà en ligne. Nous l'avons déjà en ligne. Professeur, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà. Alors, professeur, dans un premier temps, pourriez-vous nous faire un petit résumé, très bref, ces conclusions du sommet du forum sur la coopération Chine-Afrique à Pékin?
Je pense que la Chine a initié aujourd'hui un nouveau tournant sur la coopération entre la Chine et nos pays africains. Il faut revenir un peu sur l'esprit d'abord de ce forum-là. Dans le cadre de ces initiatives qui ont été initiées par le président Xi Jinping depuis un certain nombre d'années, notamment la route de la soie, la ceinture et la route, le forum, la coopération entre les pays africains, ce forum sur la coopération entre les pays africains rentre évidemment dans le cadre de ces initiatives-là. Alors, le président a planté en réalité le décor, si vous voulez évidemment résumer ce qui s'est dit dans ce forum. Dès le départ, il a dit, je cite, « La modernisation est un droit inaliénable de tout pays. » C'est pourquoi, d'ailleurs, la Chine promeut sur tous les plans cette modernisation. Il se trouve que les pays africains ont également, depuis l'agenda 2063, ont également comme objectif en ligne de mire cette modernisation. Il y a donc deux côtés cette quête de la modernisation. La Chine lance donc une vague de modernisation en Afrique, au sud du Sahara, si vous voulez, et surtout, la Chine entend développer, promouvoir une coopération exemplaire de qualité dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. L'Afrique est donc intéressée par cette initiative. Qu'est-ce qui s'est décidé? Il y a d'abord ce financement de 50 milliards de dollars que prévoit la Chine sur 3 ans pour l'Afrique, avec à la clé une promesse évidemment d'un million.
On a perdu le professeur. Restez avec nous, professeur. On va écouter justement une Gabonaise aujourd'hui. C'est la journaliste Raissa Sylvana Oyaseko, qui est donc directrice de publication des Échos du Nord.
La Chine, qui est depuis longtemps le premier partenaire commercial du Gabon, a largement contribué au développement économique et social du pays dans la construction du bâtiment du Parlement gabonais, la modernisation du réseau électrique de Libreville et la construction du projet hydroélectrique dans le Kanou. Aussi, au cours de ce forum, le Gabon a pu mobiliser 4,3 milliards de dollars pour la construction du barrage hydroélectrique de Boué, l'aménagement d'une ville moderne et l'exploitation minière au nord du pays.
Professeur Gabriel Zomoyebe, pardon. Alors, avant de rentrer d'une manière plus générale, on va dire, sur le continent africain, d'une manière générale, comme vous êtes gabonais, bien sûr, on va parler du Gabon. Quelles sont les visions du Gabon par rapport à ses relations avec la Chine au niveau coopération, au niveau des projets? Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette question-là?
Le Gabon a déjà plus de 50 ans d'histoire avec la Chine. Et donc, le Gabon a profité de ce forum pour justement mettre en avant la coopération, un approfondissement de cette coopération, notamment le financement d'un certain nombre de projets. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un coup de libération au Gabon et la population du Gabon, les Gabonais attendent beaucoup du nouveau pouvoir, notamment en matière d'énergie. Nous avons un gap énergétique, un gap infrastructurel important, comme beaucoup de pays d'ailleurs de l'Afrique, et il nous fallait justement urgemment résorber ce gap-là. C'est pourquoi il y a eu ce projet que le Gabon a présenté au cours de ce forum.
Alors, professeur, restez avec nous. On revient vers Raissa Oyaseko qui nous parle, parce qu'on va aborder forcément la question des prêts et des remboursements.
La coopération entre le Gabon et la Chine, tout en offrant de nombreuses opportunités pour le développement économique, présente également des risques qu'il convient d'évaluer avec attention. En effet, les prêts chinois, souvent à taux préférentiel, mais sur le long terme, peuvent conduire à un endettement excessif du pays, limitant sa marge de manœuvre budgétaire, ce qui conduirait à un risque de surendettement. La coopération Chine-Gabon présente un potentiel important pour le développement du Gabon, mais elle doit être encadrée de manière rigoureuse pour éviter les risques liés à l'endettement, à la dépendance économique et aux impacts environnementaux. Une approche équilibrée associant les avantages de cette coopération aux mesures de précaution nécessaires est essentielle pour assurer un développement durable et inclusif du pays.
Voilà, professeur Zomo, les précautions justement au niveau des prêts, pouvez-vous nous dire d'une manière globale, générale, comment ça fonctionne, si les pays parviennent à avoir des prêts à taux d'intérêt vraiment très intéressants et s'ils ne tombent pas dans le surendettement?
Non, on tombe sur le surendettement lorsqu'on n'arrive pas à payer les dettes anciennes. Il y a des arriérés qui s'accumulent et on va vers le surendettement. En général, même les économistes, en théorie, ne s'accordent pas sur le montant de la dette qui amène le surendettement. De manière pratique, les pays ont adopté un taux à peu près de 70%. Mais il faut savoir qu'on peut faire d'autres calculs et montrer peut-être que ce taux n'est pas toujours bon. Mais qu'à cela ne tienne, ce ne sont pas les prêts de la Chine qui engendrent le surendettement. C'est notre comportement financier qui peut engendrer le surendettement. Il faut savoir que la Chine offre trois types d'aides. Il y a l'aide sans contrepartie, c'est-à-dire en fait des dons. Il y a des prêts sans intérêt d'une durée de 20 ans, au moins avec 5 ans de grâce et 10 ans de remboursement. Et il y a des prêts préférentiels donnés souvent par Exim Bank avec des taux de 2% et une durée de 15 à 20 ans, dont 5 ans de grâce. Voilà trois types de dettes que nous avons vis-à-vis de la Chine. Il est évident que l'aide sans contrepartie n'est pas en réalité une dette puisque vous ne remboursez pas ça. Par contre, c'est vrai, le Gabon connaît d'ailleurs une situation pas dangereuse, mais une situation alarmante du niveau de sa dette. Mais nous avons pu, avant d'aller en Chine, le Gabon a pu rembourser une petite partie de sa dette vis-à-vis de la Chine, ce qui crée justement le sentiment de confiance entre la Chine et le Gabon.
Alors, professeur, bon, essayons un petit peu de comparer, parce qu'on aimerait bien savoir finalement si la Chine pratique des prêts à des taux beaucoup plus intéressants, parce qu'on imagine, comme on le sait, c'est la compétition, les États-Unis, la Russie, la Chine, etc. Donc, est-ce que vous, par exemple, les pays, vous arrivez justement à négocier, à dire, bon, ben voilà, la France ou les États-Unis nous proposent tel taux, donc vous, est-ce que vous pouvez faire mieux?
Évidemment, c'est pourquoi beaucoup de pays se tournent vers la Chine, puisque la Chine, les taux d'intérêt pour la Chine, ça va à peu près jusqu'à 3%, 2% pour les prêts préférentiel, pratiquement 0% pour les prêts sans intérêt. Vous voyez bien, alors qu'en général, les pays africains, ne fût-ce que pour les marchés financiers, s'endettent des fois à des taux de 5, 6, 7 et voire 8%. Ce qui veut dire que ces taux sont tellement élevés que ces taux risquent malheureusement d'emmener vers le surendettement, parce que lorsque les délais sont courts, par exemple pour les marchés financiers, 5, 6 ou 7 ans, ces 7 ans arrivent rapidement et le pays se retrouve dans l'incapacité de rembourser sa dette. C'est cette situation d'ailleurs qu'a connue le Gabon depuis quelques années, parce que les prêts qui posent problème au Gabon, ce sont les prêts de l'ancien régime, les prêts de 2016, 2017, 2015 même, qui rentrent à échéance. Parce que ces échéances étaient malheureusement à peu près 7 ans, 6, 7 ans.
Professeur Zomo, écoutons à présent une Congolaise de la République démocratique du Congo, c'est Chantal Faïda, et les activistes sociales.
Les accords commerciaux entre la RDC, par exemple, et d'autres pays africains et la Chine présentent plusieurs défis en termes de mise en œuvre, parce qu'il y a toujours une partie qui se sent lésée dans la mise en œuvre. Et pour le cas de la RDC, nous avons noté par le passé des contrats établis entre la Chine et la RDC. Et plusieurs années plus tard, nous sommes rendus compte qu'il y avait disparité en termes des gains tirés des différentes parties. La RDC n'avait pas tiré les gros des gains dans les contrats sino-congolais de 2006. Et donc, nous pensons qu'il est important que les autorités africaines puissent associer des experts pointus pour analyser les différents accords avant leur signature et garantir une certaine équitabilité en termes des gains à l'issue de ces accords. Nous demandons aussi une innovation dans la formulation des contrats pour que nous puissions aussi gagner certains marchés, parce qu'aujourd'hui l'Afrique est également productrice. Tout ce que l'Afrique produit devait aussi trouver des débouchés en Chine. Il ne faudrait pas que ce soit seulement la Chine qui déverse ses produits sur le marché africain. Mais l'Afrique a quelque chose à donner aussi à la Chine et cela doit être valorisé à bon escient.
C'était Chantal Faïda, il est en République démocratique du Congo. Écoutons tout de suite à Kigali maintenant un auditeur de VO Afrique, c'est Jean-Louis.
Le sommet Afrique-Chine a débuté depuis l'année 2000, avec 3 éditions sur le continent, en Afrique du Sud, au Sénégal et en Éthiopie. Une opportunité à saisir que environ 37 pays peuvent exporter vers la Chine avec 0% de douane. Il ne faut pas oublier que la Chine est l'usine du monde. L'Afrique peut tirer profit de son expertise et de sa puissance financière incontestable. Il y a cependant quelques pays qui se sont retrouvés en défaut de paiement de dettes. Et la Chine a pris les actifs pour se rembourser. Ma suggestion est que s'il y a des accords de financement, la société civile, par le canal du Parlement et du Sénat, puisse suivre et vérifier les différentes opérations.
Professeur Gabriel Zomo, vous avez entendu tout à l'heure Chantal Faïda a parlé des marchés, hein, parce que l'objectif c'est aussi de pouvoir écouler les marchandises africaines donc sur les marchés étrangers. Donc est-ce que vous savez si dans ces accords à Pékin ou ailleurs on parvient justement à écouler les produits africains à l'extérieur?
Lorsque la coopération concerne les marchés, les produits à vendre, vous savez très bien que la plupart de nos pays ont signé les accords de l'OMC. Et à l'OMC, vous pouvez justement aller vendre, c'est le principe même de la mondialisation, où vous voulez. Le principal est d'être compétitif, c'est-à-dire avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et dans les pays africains, il n'est pas interdit aux pays africains d'aller vendre en Chine. Il se trouve que c'est la Chine qui devient à la limite l'usine du monde. Et il est très difficile d'être compétitif dans n'importe quel produit, être compétitif par rapport à la Chine. Mmh. Et voilà pourquoi bon, les gens pensent que c'est un marché, plutôt c'est un marché qui est là, mais qui n'est pas accessible à nos produits. En fait, il faut dire que nous ne sommes pas souvent compétitifs, nous avons des prix élevés, ce qui ne nous permet pas d'aller vendre en Chine. Par contre, l'autre reste du partenariat concerne évidemment le financement. Lorsqu'on monte des projets, il ne revient pas à la Chine de monter vos projets. C'est au pays à monter leurs projets, à demander à leurs spécialistes de contribuer au montage de ces projets pour que ces projets puissent bénéficier, évidemment, d'un financement chinois.
Très bien, professeur. Je vais vous citer quelques commentaires de nos auditeurs, notamment Bernabé Sedoufio. Alors, il a écrit sur le Facebook de VO Afrique, je le cite, les entreprises européennes, canadiennes, australiennes et américaines sont peu compétitives face aux rouleaux compresseurs chinois, pense-t-il. Théadou Mozana a dit, les dirigeants africains doivent être vigilants dans leur coopération avec les puissances pour des contrats gagnant-gagnant, car l'Afrique a déjà assez perdu. Quant à Inlibé Gonini du Tchad, comme Ozana, il a dit, je le cite, cette coopération Chine-Afrique aide simplement les pays africains qui ont à leur tête des dirigeants ambitieux et visionnaires à investir réellement pour le développement et le bien-être de leur population et non pour les dirigeants parachutés qui visent uniquement leurs propres intérêts égoïstes. Donc voilà pour quelques commentaires. Et on a également un autre commentaire, c'est en quelque sorte une question d'Eric Chiasuma. Parce que beaucoup d'auditeurs ont fait ces réflexions hein, dans les commentaires, le suivi, ils disent bon ben voilà, nos dirigeants ils vont là-bas faire des grands sommets, mais après on ne sait pas ce qu'ils font et nous on voit pas vraiment les résultats. Et donc Eric, lui, il propose une inspection chargée du suivi, hein, que les dirigeants puissent rendre des comptes et surtout que ces projets soient réellement réalisés concrètement. Est-ce qu'il y a ce genre de mécanismes qui sont en place dans le cadre de coopération avec des puissances étrangères?
Oui, il y a ce genre de mécanisme avec quelques puissances étrangères, notamment pendant longtemps, le président Mitterrand, le président français, a malheureusement relié l'aide à la démocratisation des pays. Et quand il disait démocratisation des pays, c'est une démocratie en réalité à la française. Par contre, la Chine ne regarde pas, ne se soucie pas de votre situation politique. La Chine ne rentre pas dans vos affaires intérieures. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de pays se tournent vers la Chine. Il n'y a pas ce type de conditionnalité. Tout à l'heure, il y a un auditeur qui disait qu'il nous faut être vigilants. C'est vrai, il nous faut être vigilants. Vigilants par rapport à nos dirigeants, parce qu'il faudrait que cet argent que nous prenons servent véritablement à réaliser les projets. Trop souvent, nous avons réalisé des éléphants blancs, des projets non rentables, ni financièrement, ni économiquement, avec malheureusement des ressources qui viennent de l'extérieur. Le résultat, c'est que l'Afrique traîne les pieds et on ne voit pas un réel développement. Peut-être ça explique la plupart des cas, la situation, les coups d'État que nous avons en Afrique aujourd'hui, parce que les populations, des fois, en avaient marre.
Professeur, écoutons Maniela Mbayokoum, elle est experte en développement économique et les centrafricaines.
La coopération Chine-Afrique soulève des débats sur ses avantages et inconvénients. D'un côté, les pays africains bénéficient d'investissements massifs dans les domaines d'infrastructures, de l'énergie et d'autres secteurs vitaux, souvent avec des conditions de prêt plus souples que celles des institutions occidentales. Ces accords peuvent stimuler la croissance économique, créer des emplois et améliorer les infrastructures. De plus, la Chine offre une alternative au modèle traditionnel de développement. Cependant, certains inconvénients sont à noter. Le premier, c'est la dépendance financière croissante des pays africains vers la Chine qui pourra entraîner des dettes difficiles à rembourser pour ces pays africains. Et de plus, les contrats favorisent souvent les entreprises chinoises avec peu de transferts de compétences locales, ce qui limite l'impact durable sur les économies locales. Et il existe aussi des inquiétudes concernant l'exploitation des ressources naturelles et l'environnement.
C'était Maniela Mbayokoum, mais elle revient à présent sur des pistes de solutions.
Les gouvernements des pays africains devraient encourager le transfert des compétences, c'est-à-dire que les accords signés devraient inclure des clauses pour former les travailleurs locaux et développer les industries locales. Deuxièmement, il faudrait favoriser les entreprises locales, c'est-à-dire veiller à ce que les contrats bénéficient aussi aux entreprises africaines afin de stimuler la croissance locale. Et troisièmement, il faudrait protéger les ressources locales, c'est-à-dire mettre en place des mesures de protection pour éviter l'exploitation excessive des ressources naturelles et veiller à la préservation de l'environnement. Bien évidemment, cela demande une volonté politique forte et une gestion rigoureuse des ressources et des partenariats.
Professeur Gabriel Zomo, vous avez entendu, hein, on en vient finalement à la question de l'emploi, n'est-ce pas? La création des emplois, l'on sait que la Chine a souvent été critiquée pour amener tout son personnel, hein, des dizaines de milliers de salariés, d'employés donc chinois en Afrique. Est-ce que dans les contrats, encore une fois, dans les contrats coopératifs, est-ce que l'on parvient à développer des politiques où l'entreprise étrangère va vraiment créer des emplois, par exemple comme le font, on va dire, peut-être les Japonais dans le milieu automobile dans les pays occidentaux?
Oui, là vous parlez des pays occidentaux, mais il faut savoir en Afrique que c'est chaque pays qui doit évidemment essayer de mettre des clauses à l'intérieur de son accord. Il faut favoriser les entreprises locales, d'accord, surtout sur la, pour la sous-traitance. Au Gabon, par exemple, après le dialogue, justement, il y a eu une solution pour cela, c'est-à-dire, à la limite, nationaliser la sous-traitance. Mais tout revient, tout est dans les accords que nous signons. Que ce soit le transfert de compétences, c'est à nous à suggérer tout ça. Encore que transfert de compétences, c'est un mot en réalité qu'on utilise souvent, ou transfert de la technologie, mais ce n'est pas si évident que ça. Parce que pour transférer la technologie, il faut non seulement que nous-mêmes, nous soyons capables d'inventer une technologie, d'acheter la technologie, parce qu'il y a des problèmes de droits de propriété, et il nous faut également, il y a eu pendant longtemps un frein, c'était la langue chinoise, le mandarin. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants africains, à peu près 100 000, étudient en Chine et peuvent permettre justement, petit à petit, en rentrant dans les entreprises chinoises, dès la Chine, profiter justement de la technologie qui est sur place et venir justement maîtriser cette technologie en Afrique. Et bien, quant aux mesures de protection, il faut protéger la nature, à nous de surveiller justement toute entreprise. Ce n'est pas spécifique aux Chinois, mais c'est spécifique à tout investissement direct étranger qui vient en Afrique. Nous avons eu plusieurs cas de pollution, ce ne sont pas des entreprises chinoises, mais des entreprises de d'autres pays.
Merci professeur. Écoutons à présent une autre centrafricaine, c'est Béatrice Epaille. Elle est députée et ancienne ministre du Commerce et de l'Industrie.
Ce qu'il faut saluer, c'est l'organisation d'une réunion de haut niveau sur la gouvernance d'État. Je crois qu'il était souhaitable de mettre un accent particulier sur la gouvernance d'État, le changement climatique, la technologie verte, les questions de sécurité et de maintien de la paix, la santé, l'agriculture, l'énergie et autres transferts de technologie. Je salue l'annonce des financements par la République populaire de Chine en faveur de l'Afrique et les promesses aux pays les moins avancés, PMA, dont fait partie la République centrafricaine. Toutefois, cela doit être gagnant-gagnant. L'ouverture du commerce, la présence des entreprises dans tous les secteurs doivent respecter les accords bilatéraux et multilatéraux. Ainsi que le respect des engagements pris est très important. Le respect de l'environnement est primordial pour les entreprises qui exercent dans les mines, dans l'agriculture, dans l'industrie verte.
C'était Béatrice Epaille. À présent, elle revient sur la question du climat des affaires.
Les pays africains doivent veiller sur les climats des affaires avec un système judiciaire fort pour plus de contrôle en matière de textes signés avec la Chine et le suivi des engagements pris par les États en matière de construction d'infrastructures qui méritent le développement de l'emploi des jeunes et le transfert des technologies vers l'Afrique. L'Afrique attend beaucoup en matière de coopération internationale et dans le cadre du commerce multilatéral, le renforcement de la zone de libre-échange continentale africaine, car elle pourra améliorer le niveau de vie des Africains et réduire la pauvreté.
C'était la députée centrafricaine Béatrice Epaille, ancienne ministre du Commerce et de l'Industrie. Professeur Gabriel Zomo, vous voyez, on parle de l'Afrique, on dit toujours l'Afrique, et en fait, il y a beaucoup, on a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux de nos auditeurs ou autres qui reprochent finalement justement aux dirigeants africains d'être toujours d'une certaine manière en rang dispersé, une cinquantaine de lignes leaders, de dirigeants africains à Pékin, et il reproche finalement à ses dirigeants de ne pas être unis au niveau du continent. Bon, sans parler du continent entier, au niveau de la CEMAC, hein, l'Afrique de l'Ouest, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, est-ce qu'il y a des structures aussi, des mécanismes spéciaux qui font que cette organisation, elle, pourrait négocier directement aussi avec les grandes puissances?
Oui, effectivement, il y a certains projets qui peuvent être négociés directement par ces organismes, notamment la CEMAC, notamment la CDAO, qui a un certain nombre de problèmes aujourd'hui. Mais si je prends le cas de la CEMAC a quand même un programme économique régional qui a été élaboré il y a encore quelques années. Et ce programme, dans ce programme, il y a un certain nombre de projets que l'on doit réaliser dans la CEMAC de manière communautaire. C'est aussi ça, le développement partagé que promet la Chine. Il y a un certain nombre de projets, que ce soit en énergie, en infrastructure, parce que les mêmes problèmes ressurgissent dans tous les pays de la CEMAC. Les problèmes d'énergie, les problèmes d'infrastructure routière, et ainsi de suite. Il est donc intéressant pour un groupement, pour une communauté, de présenter ces projets de manière, en réalité, ensemble. Et ça donne plus de crédibilité pour tout le reste. Bon, on peut regretter que chaque pays vient seul présenter ses projets sans regarder ce cadre qui est régional et sans avoir une vision de long terme, qu'il y a dans le programme économique régional.
Alors, professeur, il nous reste plus beaucoup de temps. On va essayer d'écouter d'autres commentaires. Yvette Alavaux, elle est du Bénin et elle est présidente d'ONG, notamment qui s'occupe de la santé publique.
Pour ma part, je pense que la coopération Afrique-Chine ou Chine-Afrique a de bons jours devant elle. Si nous essayons de parler d'égal à égal et que nous n'allions plus en rang dispersé, parce que là on parle de segments, que nous parlons d'une seule et même voix, car nous partageons les mêmes priorités de développement actuellement. Alors pour moi, il est vraiment important que à la tête de nos États, que nous ayons des personnes capables, des personnes ambitieuses, des personnes qui placent le bien-être des populations au cœur de leurs priorités. Car il n'y a pas de développement sans bien-être de la population. C'est très important. Et quant à la Chine, je n'ai pas souvenance qu'elle a des mécanismes de financement pour le volet santé comme l'USAID ou le Fonds mondial pour venir en appui au volet développement ou appui santé en Afrique. Mais par contre, je sais que sur le plan médical, il y a pas mal de transferts de compétences qui s'opèrent.
On écoute tout de suite Fernandez Toyou, il est au Togo.
Généralement, ces puissances, quand elles viennent chez nous, ce qu'elles prennent dépasse ce qu'elles nous donnent en retour. Même peut-être que ce qu'elles nous donnent, c'est le tiers de ce qu'elles viennent chercher chez nous. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de coopération. C'est pour moi une utopie qu'on me dise aujourd'hui qu'il y a des puissances qui vont venir aider l'Afrique pour que l'Afrique se développe et que demain l'Afrique les dépasse. Donc, nos dirigeants, lorsqu'ils vont à ce genre de rencontres, qu'ils soient clairs, que les choses se fassent d'égal à égal. Depuis qu'il y a ce genre de coopération jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons eu? Où en est l'Afrique jusqu'au jour d'aujourd'hui? Nous sommes au 21e siècle.
Et on reste au Togo pour finir en écoutant Sena Dodzi.
La coopération Chine-Afrique est une grande force de développement durable pour l'Afrique. Un partenariat gagnant-gagnant. La Chine offre aux pays africains des affaires selon leurs moyens. Chaque pays africain a sa place en Chine. Avec la Chine, je pense que l'économie des pays africains va s'améliorer. Donc c'est une coopération qui va avantager les deux continents. Et c'est une bonne chose aussi.
Professeur Gabriel Zomoyebe, il vous reste une toute petite minute, 45 secondes pour conclure tout cela. Au regard finalement de ce que vous avez entendu comme commentaire, qu'est-ce que vous aimeriez dire pour terminer?
Il est vrai que le développement d'un pays ne doit pas dépendre de l'extérieur. Il ne faut pas aussi tomber dans l'autre piège où tout va dépendre de l'extérieur. Nous devons fournir nous-mêmes des efforts, les partenaires sont là pour nous accompagner dans ces efforts et à nous de multiplier les partenaires. C'est ce que nous faisons. Nous avons eu, par le passé, en réalité une coopération à somme nulle, c'est-à-dire le gain des uns fait le malheur des autres. Avec la Chine, on pourra avoir peut-être un partenariat gagnant-gagnant, ce que j'appelle un jeu à somme positive, où le bonheur des uns, c'est-à-dire nous, Africains, va faire le bonheur des autres, les Chinois.
Merci beaucoup, professeur Gabriel Zomoyebe. C'était un plaisir de pouvoir bénéficier de votre expertise. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences économiques. Avec vous, c'était Nathalie Barge. À la production, c'était Max Koyaweda. Et restez avec nous, bien entendu, pour la suite de nos programmes sur voafrique.com. Bonne soirée et bon courage.